France Inter.
Le procès doit en principe débuter tout à l'heure à 9h30 à Bobigny, mais les débats ont commencé depuis déjà plusieurs semaines avec un Jean-Luc Mélenchon qui, depuis son retour d'Amérique latine, crie au procès politique. La ministre de la Justice, de son côté, parle de fantasmes et dénonce des propos inacceptables. Les faits se sont déroulés il y a un an, le 16 octobre 2018, lors d'une perquisition au siège de la France Insoumise. Récit signé Ariane Grissel.
Ce matin du 16 octobre, c'est le leader de la France Insoumise lui-même qui lance un appel aux médias sur les réseaux sociaux en pleine perquisition. Le moment judiciaire devient fait médiatique à tel point qu'on peut se demander s'il y aurait eu un procès sans les images. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est convoqué précisément pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Autrement dit, pour des moments comme celui-ci.
Vous croyez que j'ai peur de qui ou de quoi? De rien! Enfoncez-moi cette porte!
La scène dure près de trois quarts d'heure, avec des instants plus calmes aussi, où Jean-Luc Mélenchon se montre coopératif.
Non, mais de toute façon, il faut tout leur donner. Il ne faut opposer aucune résistance. Donne-leur tout, nous sommes des gens honnêtes, on n'a rien à craindre d'eux.
Dans cette affaire, 17 personnes se sont déclarées victimes, celles qui ont participé à la perquisition, procureurs, policiers, gendarmes, officiers fiscaux. L'avocat de Jean-Luc Mélenchon explique lui les coups de colère de son client par un sentiment d'injustice face à cette opération judiciaire. Il souligne également que le député n'a pas fait usage de son immunité parlementaire. Jean-Luc Mélenchon a prévu d'être là à l'audience comme les cinq autres prévenus. Les faits pour lesquels il comparaît sont passibles de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Un procès qui pourrait cependant être renvoyé ce matin pour des questions de procédure. Et puis depuis cet été, il a beaucoup été question des violences à l'encontre des élus locaux. Hier, un jeune homme a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal de Roanne. Il avait donné un coup de poing au maire de Saint-Alban-les-Eaux lors des fêtes du 15 août. Un nouveau patron à la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a été désigné par le chef de l'État pour succéder à Guillaume Pépi. Jean-Pierre Farandou, 62 ans, dont 38 passés à la SNCF, de chef de gare à la direction de Keolis, la filiale de transport en commun du groupe. Un homme du Sérail, donc, qui prendra ses fonctions au 1er janvier 2020 et qui devra trouver un équilibre entre objectifs financiers, attente des usagers et traitement des salariés selon la CGT. Autre grande entreprise publique, EDF, avec une journée de grève à l'appel de l'intersyndicale contre le projet de scission baptisé Hercule. D'un côté, une branche 100% publique avec les activités de production d'électricité, centrales nucléaires et barrages. Et de l'autre, un pôle en partie privatisé avec Enedis, les énergies renouvelables et les activités commerciales d'EDF. Les syndicats y voient la fin du service public de l'énergie et dénoncent un risque de hausse des prix de l'électricité. Grégoire Lecalot.
Pour l'intersyndicale, le projet Hercule menace d'abord les fameux tarifs bleus réglementés adoptés par 25 millions de foyers. EDF serait mis sur un pied d'égalité avec ses nombreux concurrents pour acheter l'électricité produite par sa propre branche production. Les tarifs bleus ne pourraient pas tenir, estime Vincent Rodet de la CFDT.
Le projet Hercule, à terme, c'est la disparition de ce modèle, d'un tarif repère. En Europe, il n'y a pas un pays où la libéralisation a fait baisser les prix. Si encore la libéralisation avait vraiment fait baisser les prix. En tant que syndicaliste, on pourrait râler, mais il y aurait un fait objectif. Et ce n'est pas le cas.
D'autant que EDF, déjà forcé par la loi à vendre une partie de son électricité à prix fixe à ses concurrents, ne fait pas mystère de souhaiter augmenter son prix de vente. Les négociations autour d'Hercule en France et à Bruxelles lui donneront l'occasion de plaider en ce sens, ce qui se répercuterait sur les factures des consommateurs. Enfin, alerte Philippe Page-Lemerour de la CGT, Hercule, c'est la fin de l'égalité entre les territoires.
C'est la casse de la péréquation tarifaire. Vous savez aujourd'hui que vous habitez Neuilly au fin fond de la Corrèze, vous payez le même prix. Demain, ça c'est terminé. On sera dans la même situation que la pompe à essence ou que la flotte.
La direction d'EDF, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer, précisant simplement que des négociations sont en cours.
Le gouvernement va plus loin pour assurer le versement des pensions alimentaires. Actuellement, une famille sur trois doit faire face à des impayés, en majorité des femmes seules avec enfants. Sur demande, le montant de la pension alimentaire sera donc prélevé directement par la CAF sur le compte du parent débiteur et reversé toujours par la CAF sur le compte du parent bénéficiaire. En cas d'insolvabilité, la CAF versera une allocation de 115 euros par mois et par enfant. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h.
Il est 7h06, Agnès, c'est un numéro vert qui n'a jamais aussi bien porté son nom.
Un numéro pour urbains anxieux, désireux de dialoguer avec un agriculteur pour parler des pratiques, de l'utilisation de pesticides au bien-être animal, des sujets qui fâchent. Ce numéro vert, baptisé Ici la Terre, sonnera à partir de la mi-journée et c'est une idée d'un collectif d'agriculteurs pour tenter de rétablir un lien de confiance entre producteurs et consommateurs. Jérôme Regnault est l'un des porte-parole du collectif.
On a eu ce constat qui disait que si de plus en plus l'agriculture est un petit peu égratignée, a une image difficile, lui l'agriculteur, quand prenait le temps de parler, avait une bonne image, une image de confiance. Et c'est ce lien-là avec les Français qu'on souhaite relier en direct. Donc évidemment, je pense que l'actualité tourne beaucoup autour des pesticides, l'actualité tourne beaucoup autour des zones non traitées, l'actualité tourne beaucoup autour de la qualité de nos assiettes. On sera vraiment sincère dans nos témoignages, il ne s'agit pas de vendre une belle histoire. Chaque agriculteur qui sera au bout du fil parlera en son nom propre et témoignera de son quotidien. Il faut communiquer, il faut se parler, il faut échanger. Nous, on doit rassurer le grand public et le grand public doit nous rassurer du regard qu'il porte sur nous.
Des propos recueillis par Sébastien Baer et le numéro vert est le 0805. 382, 382. La cigarette électronique dans le collimateur des autorités françaises, Santé publique France est en train d'élaborer avec des pneumologues et des médecins réanimateurs un outil d'alerte pour faire remonter des cas suspects d'intoxication. Aux États-Unis, l'e-cigarette serait responsable de 7 décès. Elle a d'ailleurs été bannie dans l'État de New York, interdite également totalement en Inde.
On passe à la valse hésitation, Agnès, des États-Unis vis-à-vis de l'Iran.
Avec une ligne dure, défendu par Mike Pompeo, qui parle d'acte de guerre en évoquant l'attaque des installations pétrolières en Arabie Saoudite, et une ligne plus hésitante de la Maison-Blanche, qui pour l'instant s'en tient à un renforcement des sanctions économiques. Grégory Philippe, c'est à Washington pour France Inter.
À Jeddah, en Arabie Saoudite, juste avant de rencontrer le prince héritier Ben Salman, Mike Pompeo parle d'un acte de guerre perpétré samedi et clairement pointe du doigt le régime iranien. À 13 000 km de là, alors qu'il est en déplacement en Californie, Donald Trump annonce de nouvelles sanctions à l'égard de Téhéran, mais se garde bien de reprendre ce mot de guerre prononcé par son chef de la diplomatie. Il y a beaucoup d'options, dit le président américain. L'option ultime et d'autres moins fortes. On verra bien ce qui se passe. Entre le discours de Pompeo et celui de Trump, on mesure bien l'hésitation américaine décryptée à Washington par Robert Malley, président de l'International Crisis Group. Il fut aussi de 2014 à 2017 le conseiller Iran de Barack Obama à la Maison-Blanche. Et voici ce qu'il dit de Donald Trump.
Son instinct, c'est de ne pas faire la guerre. Son instinct, c'est justement de dire on va s'occuper de nos affaires et non pas des affaires externes. Mais de l'autre côté, il aime pouvoir projeter cette image d'homme fort qui réagit lorsqu'on attaque.
Donald Trump promet une annonce dans les 48 heures, sans que l'on sache si elle concerne le renforcement de ses sanctions à l'égard du régime des ayatollahs ou bien une opération militaire que la Maison-Blanche ne semble pas vouloir pour l'instant. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
L'acquittement à l'instant au Japon de 3 ex-dirigeants de la compagnie TEPCO. Le tribunal de Tokyo a jugé qu'ils ne pouvaient pas être reconnus coupables des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima survenue il y a plus de 8 ans à la suite d'un gigantesque tsunami.
Retour en France, Agnès, il est 7h10 avec une première étude sur la chirurgie de l'obésité, étude que vous dévoile France Inter.
Une chirurgie très en vogue qui consiste à réduire le volume de l'estomac selon différentes techniques, mais ses bénéfices et ses complications à long terme n'avait pas été mesurée en France. C'est chose faite avec cette étude de l'APHP, de l'assurance maladie et du CHU de Brest. La conclusion, Véronique Julia, est qu'il y a un réel bénéfice à long terme, mais l'opération est loin d'être anodine.
On a suivi le parcours de 18 000 patients pendant 7 ans. La moitié d'entre eux ont été opérés, l'autre moitié n'a pas eu de chirurgie. Les deux groupes étaient homogènes, même répartition hommes-femmes et des patients comparables en termes de poids. Au bout de 7 ans, on constate que le groupe des patients opérés voit sa mortalité réduite de 36%, ce qui n'est pas rien. En revanche, ce groupe a 2 à 3 fois plus de risques d'être hospitalisé pour cause de complications. Complications post-opératoires, mais aussi et surtout complications nutritionnelles. Malnutrition, anémie, le tube digestif opéré absorbe en effet moins de vitamines et de minéraux. Le patient, pour bien faire, doit donc prendre des compléments alimentaires. Pour le professeur Sébastien Tchernikov, chef du service de nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, ces résultats montrent que l'opération en soi ne suffit pas. Pour éviter les complications, il faut observer une vraie discipline, ce que trop de patients oublient.
Les patients vont progressivement revenir vers une vie plus normale, se sentir mieux, ce qui est tout à fait positif bien sûr, mais vont être peut-être moins vigilants sur la façon de s'alimenter, vont avoir tendance peut-être à arrêter l'activité physique ou à la diminuer, alors qu'on sait que ce sont des déterminants très importants pour conserver le bénéfice de la chirurgie au long cours.
Car même opérée, l'obésité reste une maladie chronique qui nécessite une surveillance à vie. 5 ans après une chirurgie, pourtant 40% des patients ont disparu dans la nature par négligence ou parce qu'ils imaginent à tort qu'ils sont guéris.
La chirurgie de l'obésité, risques et bénéfices, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Le renouveau du 15 de France avec Romain Ntamack, 20 ans, qui conduira l'attaque des tricolores face à l'Argentine samedi pour le premier match de la France en Coupe du Monde de rugby. Ntamack sera aussi le buteur de l'équipe, Guilhem Guirado le capitaine et au centre une paire inédite, Vakatawa Fikou. La belle entrée en lice en fin du PSG hier soir en Ligue des Champions, victoire 3-0 au Parc des Princes face au Real Madrid. Et l'absence des leaders charismatiques a permis à deux joueurs parisiens de crever l'écran, j'ai nommé Angel Di Maria et Idrissa Gueye. Jean-Pierre Blimeau.
Dans le football, il y a ceux qui attirent la lumière et ceux qui travaillent dans l'ombre. En s'offrant un doublé et manquant de peu le triplé, Angel Di Maria s'est chargé de faire le show. En l'absence de Neymar, Cavani ou Mbappé, il a marqué les esprits, y compris de son entraîneur, qui a souvent défendu l'Argentin lorsque les trois autres captaient l'essentiel des projecteurs. Thomas Tuchel.
Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Son pied gauche est extraordinaire. Depuis beaucoup de matchs, il est toujours décisif.
Cette fois, un travailleur de l'ombre a aussi crevé l'écran, et cela sous les yeux de l'Europe. Idrissa Gueye, l'ancien joueur de Lille, Aston Villa ou Everton, a réalisé le match quasi parfait, 95% de passes réussies, dont l'une est décisive sur le second but. Chaudement félicité devant les caméras par son entraîneur, Idrissa Gueye préférait parler collectif devant les micros.
Ça change rien pour moi. Le plus important, c'est d'être sur le terrain et d'essayer d'aider l'équipe. Après, individuellement, c'est plus facile quand tout le monde travaille ensemble. Et voilà, je suis content aujourd'hui.
La folle soirée de Di Maria ou Gueye ne doit pas faire oublier la prestation d'ensemble de toute l'équipe du PSG qui, collectivement, a éteint un Real Madrid. À l'inverse, pas du tout à son affaire.
Le PSG qui affrontera le Galatasaray le 1er octobre prochain en Turquie.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom à bord de l'expédition Tara sur la piste du plastique. Diane Sprimont nous attend pour le premier point route.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stage de révision et cahier de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info cours-legendre.fr.
Diane, bonjour.
Bonjour.
Chargée Diane à l'entrée de Bordeaux.
Et oui, vous roulez au pas sur la 10 à partir de Cubzac-les-Ponts en direction de Bordeaux. Comptez 20 minutes actuellement pour faire ces 10 km. Ça bouchonne aussi en direction de Toulon sur la 57 depuis La Farlède. Et attention, si vous circulez dans l'Essonne, la bretelle de la Francilienne intérieure à hauteur d'Evry en direction de Linas est fermée. Un camion est encore à l'arrêt. Il a perdu son chargement sur la route et ça perturbe la circulation jusqu'à Vissous.